Bonjour Immaculée. Soyez bénie. Bonne journée. Bonjour Rachel. Sois bénie. Bonne journée. Bonjour Marie-André. Bonjour Farley. Bonjour Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes plus nombreux que je n'en ai mentionné, mais je ne vois pas vos noms. Bonjour à mon épouse qui me regarde depuis la maison encore une fois cette semaine. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Alors, si vous voulez recevoir des petites salutations bien personnalisées, juste écrire un petit mot dans la zone de commentaires, parce que sinon je pourrais peut-être passer outre. Bonjour à Lalande, bonjour à Landry, bonjour aux belles petites filles, grandes filles plutôt. Ouais. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à Jean-Gilbert et à Ozani. Alors, je vous ai rejoint, Jean-Gilbert et Ozani. Maintenant, la vie d'ébullition d'eau est maintenant levée aussi sur Roxboro. Ça a été levé samedi soir, je crois, en début de soirée. Donc, 24 ou 36 heures après Dollar des Ormeaux. Et on en est bien content. Plus d'une semaine sans eau courante au niveau de l'eau potable, ça fait réfléchir. Dieu la bendiga, hermana Flori. Alors, nouvelle semaine de bénédiction matinale. On continue avec notre thématique sur les images ou les symboles qui, bibliques, bien entendu, qui représentent la parole de Dieu. Donc, on a d'autres choses à partager aujourd'hui. Daph, tu réponds avec le logo de l'Église. Donc, si tu voulais y aller plus perso, tu dois changer ton nom, ton, je ne sais pas comment faire. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Donc, oui, Daphné est à la maison et je suis à l'église. Je retourne la retrouver après la bénédiction matinale. Vous avez encore un bon 7 ou 8 minutes avant qu'on ne débute. Le temps de vous saluer, évidemment, le temps d'aller chercher votre café. Alors, encore des journées bien chaudes qui nous attendent. Je crois que c'est samedi, si je ne m'abuse, on a battu un record. Il faisait plus de 35 degrés sur Montréal, un record depuis 1955. Donc, avec le facteur humidex, on monte au-dessus des 40, ce qui peut être pénible pour plusieurs. Et c'est supposé durer minimum jusqu'à jeudi. Donc, on espère que vous avez moyen de vous rafraîchir, de rester à l'ombre, à la climatisation, on espère. Buvez beaucoup, vous en aurez besoin. Mais je sais que plusieurs d'entre vous apprécient ces journées très chaudes, contrairement à votre humble serviteur. Alors, bonjour à ma mère. Elle est connectée, elle aussi. Donc, mon père est connecté et ma mère est connectée. Bonjour France, bonjour Patrick. Bien content de vous savoir avec nous ce matin. Belle-mère vient de se connecter. Bien le bonjour, la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Content de te voir avec nous ce matin. Soyez bénie la belle-mère. Denise, vous avez changé votre photo de profil. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine à vous, Denise. Hello, Pastor David. I know the weather is coming my way, but with what we're going through lately, it seems so far away from now. But Christmas will come, Christmas will come. God bless you, Pastor David. Bonjour Natacha, bonjour Indirene. Bonjour aux filles aussi, bien entendu. Bonjour Thérèse, sois bénie. Donc, je viens de me rendre compte que mon épouse m'écoute sur son cellulaire, qu'elle vient d'enlever l'alarme à la maison et ça veut certainement dire que la nénette doit aller faire un tour dans la cour. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Ni hao yaoi, yezuai ni. Bien content que tu sois avec nous. Tu es probablement la seule avec qui je peux m'amuser à saluer en mandarin. J'espère que tu vas bien. Hello, Tante Luce. God bless you. Happy to have you with us this morning again. Hope you have a blessed week. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous savez que l'enseignement est toujours disponible sur la page web de l'Église ainsi que sur nos plateformes habituelles, YouTube et puis Facebook. Hello, Sister Sylvia. Bonjour. God bless you. Hier, on avait de la grande visite, alors je vais faire languir ceux qui n'étaient pas là. Je ne l'ai pas mentionné pendant l'assemblée parce que je me suis rendu compte de sa présence après coup. Mais on était très très contents de recevoir hier la sœur Astriana Adlam. Pour les plus anciens dans l'Église, vous l'avez connue. Pour les plus jeunes, C'est quelqu'un qui a fréquenté l'église. Ça a été une grand-mère dans l'église. Elle m'a connu quand j'avais 7 ou 8 ans. Lorsqu'on est arrivé à l'église, je pratiquais mon anglais naissant avec elle et elle pratiquait son français naissant aussi avec moi. Donc c'était de belles retrouvailles hier. On était content d'avoir la sœur Adlam. Ça rappelait de merveilleux souvenirs. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là hier. Vous auriez pu la saluer. Et je sais que certains vont languir en sachant qu'elle était là et qu'ils n'ont pu assister au culte. Elle n'a pas changé. Un peu plus courbée, oui, avec l'âge, mais rendue à 88 ans. Le visage reste le même, les cheveux un peu plus blancs, mais toujours beaucoup d'affection pour le peuple du Seigneur, pour le peuple de Dieu, et puis toujours enflammée pour son Seigneur. Donc on était vraiment, vraiment content de la voir hier. Bonjour à la sœur Aneris. La problématique vient pas de mon côté. Probably the problem is on your side, Aneris. Because all my connection seem to be okay this morning. Bonjour Samek. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Jane. Bonjour Sydney, si elle est avec toi. Alors encore une ou deux minutes et après ça, on va débuter. John Traoré, je suis pas sûr que le mot frère est nécessairement applicable parce que, hormis Jésus, nous n'avons besoin d'aucun autre maître. Donc, je supprime votre commentaire qui nous est inutile. Alors, juste avant qu'on ne débute, on vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche prochain, oui, sont déjà ouvertes depuis hier. Et comme je mentionnais hier, avant la prédication, il y avait plus de 80 inscriptions cette semaine. Donc, lorsqu'on calcule les inscriptions plus l'équipe en service, on est près de notre capacité maximale. On vous invite vraiment à vous inscrire le plus tôt possible, à ne pas attendre et surtout à ne pas vous présenter à l'église sans inscription parce que vous pourriez être dans une situation délicate. On a un maximum de places qui sont allouées pour le culte du dimanche. On vous demande vraiment de collaborer en vous inscrivant dimanche après dimanche ou semaine après semaine. Donc ne tardez pas parce qu'on arrive bientôt à capacité maximale. Bonjour Babette, bonjour Andreas, que Dieu vous bénisse. Alors on va prier et après cela on débute notre enseignement pour aujourd'hui et pour cette semaine en fait. Alors merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour cette autre semaine qui débute et puisque tu nous accordes encore le souffle de vie, c'est donc que tu as des choses à nous enseigner, des choses aussi à faire pour nous et par nous. Tu veux nous utiliser à ta gloire. Alors nous prions simplement Seigneur que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, que tu puisses nous instruire et que nous recevions favorablement, avec obéissance, avec ouverture, ta parole ce matin. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, juste une autre petite annonce, parce que j'ai peur d'oublier, je veux vous laisser un peu de temps pendant qu'on étudie la parole ce matin. Hier, c'était l'anniversaire de Julie, notre sœur Julie Giraldo. Donc, on vous souhaite un joyeux anniversaire en retard. Et puis, pendant l'enseignement, assurez-vous de saluer donc Julie et de lui souhaiter un joyeux anniversaire, même si c'est un peu en retard, et de la bénir dans le nom de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse, Julie. Content de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour aussi à Lucie qui vient de se connecter. Alors, on continue donc notre étude sur les symboles ou les images que la Bible nous donne concernant la parole de Dieu. Vous savez que tout le mois d'août, on l'a mis en spécificité sur la question de la parole de Dieu. Donc, le dimanche et le mercredi, on étudie, bien entendu, la parabole du semeur en essayant de comprendre quelle devrait être notre attitude par rapport à la parole, voir ce qui est à éviter dans le comportement ou dans l'agissement qu'on peut avoir face à la parole. Et durant les bénédictions matinales, donc on prend le temps de décortiquer les Écritures pour essayer de trouver les différents symboles, les différentes images que Dieu nous donne par rapport à la parole pour avoir une meilleure idée de ce qu'elle représente pour nous. Et aujourd'hui, on va étudier un verset qui est très, très connu. Je suppose que plusieurs d'entre vous se demandaient quand est-ce qu'on allait arriver à cette image-là, puisque c'est un des versets concernant la parole de Dieu qui est les plus célèbres, on va dire. Dans le psaume 119, le verset 5, on va étudier la moitié aujourd'hui, la moitié demain. Mais il y a deux passages aujourd'hui, donc dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Donc, pour ceux qui prennent des notes, le psaume 119, le verset 5. Et puis, dans le Nouveau Testament, le deuxième verset qu'on va étudier, même qu'on va étudier un peu plus profondément, dans 2 Pierre 1, 19. Donc, psaume 119, 105 et 2 Pierre 1, 19. Et le titre pour aujourd'hui, « La parole, une lampe à mes pieds ». La parole, une lampe à mes pieds. Et demain, on étudiera la parole, une lumière sur mon sentier. Deux choses bien différentes. Donc, une lampe en hébreu, c'est le terme ni'ir, ni'ir. Donc, N-I-Y-R. Je répète, ni'ir, N-I-Y-R. Et comme on va étudier aussi un passage dans le Nouveau Testament, donc, le terme « lampe » existe aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr en grec. C'est le terme « lichnos », « lichnos » ou « lichnos », L-Y-C-H-N-O-S. Je répète, « lichnos » ou « lichnos », L-Y-C-H-N-O-S. Dans les deux cas, que ce soit « nir » ou « lichnos », en grec ou en hébreu, ou en fait en hébreu ou en grec, c'est le mot « lampe ». Alors, psaume 119, 105, on a mentionné le verset tout à l'heure, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On s'arrête juste sur la première phrase, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Donc, « lampe », on l'a dit, « ni'ir », N-I-Y-R, qui va nous parler d'une lampe. Bien sûr, c'est pas une lampe à électricité comme on peut avoir avec une ampoule incandescente ou avec une ampoule LED comme on peut avoir aujourd'hui à notre époque. Mais c'était ce genre de lampe qui fonctionnait avec de l'huile et une mèche qu'on allumait. Et tant qu'il y avait de l'huile, la mèche brûlait graduellement. Dans certains cas, c'était un petit réceptacle en poterie avec un trou dans lequel on introduisait l'huile et un autre trou dans lequel il y avait une mèche, donc un morceau de tissu, souvent du coton, qui venait s'imbiber de l'huile qu'on avait introduit dans le creux de la lampe. Et pendant les heures de soirée ou pendant la pénombre, donc on allumait cette lampe et elle éclairait la pièce. Par la suite, c'est devenu une lampe avec toujours un réceptacle mais non plus fait en poterie, mais fait en vitre, et avec le même principe d'une mèche qu'on était capable de tirer vers le haut ou de rabaisser, et ça amenait l'intensité de la flamme à grandir ou à baisser. On parlait donc de ces lampes, on parlait aussi de nir pour un chandelier, ou la chandelle par elle-même. Vous savez que dans la tradition juive, on avait ces chandeliers à 7 ou à 9 branches dans lequel donc on mettait de petites chandelles et qui éclairaient lors des offices religieux de la communauté juive ou encore qui éclairaient donc les soirées en famille. Donc c'était le mot lampe. Une lampe à mes pieds. Pied, c'est le terme regel. Regel, R-E-G-E-L, R-E-G-E-L, qui va parler non seulement du pied, donc de l'extrémité d'une jambe, mais va parler aussi de la jambe. Lorsqu'on utilisait le terme regel plutôt, on voulait dire non seulement le pied, mais aussi tout le membre, tout membre inférieur, donc toute la jambe dans son entièreté. Et on parlait aussi du pas. Donc, de la distance que franchissait une jambe pour nous véhiculer ou pour nous faire avancer. Donc, tant Regel va tant parler du pied, de la jambe, que du pas ou des pas que nous faisons lorsque l'on marche. Le point intéressant ici, contrairement à demain qui va nous parler d'une lumière sur notre sentier, on nous parle ici d'une lampe. Donc ici, la lampe, c'est vraiment un objet qui éclaire avec une diffusion de la clarté qui est quand même limitée. On ne parle pas d'une clarté comme du jour, on ne parle pas de la clarté comme le soleil qui éclaire nos journées. Donc c'est une luminosité qui est quand même restreinte et une luminosité qui éclaire dans un endroit particulier, là où se trouvent nos pieds. Et ça, c'est la partie importante pour aujourd'hui, contrairement à demain. La parole, cette lampe qui éclaire spécifiquement là où nous nous tenons aujourd'hui. Donc, qui éclaire spécifiquement mon présent. Très souvent, on va vers la parole de Dieu pour essayer de découvrir l'avenir. Il y a des gens qui sont... de fervents lecteurs de la parole de Dieu, mais pour essayer d'annoncer les choses à venir, pour essayer de prédire les choses à venir, ou pour essayer de voir les choses qui ont été prédites, prophétisées, s'accomplir. Et je pense que c'est, oui, une bonne chose. Malheureusement, à tout le temps porter le regard vers l'avenir, on perd peut-être le contact avec notre moment présent. Et la parole de Dieu a cette faculté de non seulement éclairer notre avenir, mais bien entendu de nous parler de notre état d'aujourd'hui. Alors il est important de comparer ce que je vis aujourd'hui avec la parole de Dieu. Dieu veut parler assurément par rapport à ton futur. La parole de Dieu nous prouve à maintes et maintes reprises que notre futur n'est pas inconnu de Dieu. Et dans certains cas, oui, le Seigneur est capable de nous révéler, le Seigneur à l'occasion veut effectivement nous révéler notre avenir à travers sa parole. Et je ne suis pas en train de dire de faire avec la parole de Dieu ce que plusieurs font, qui est pratiquement de faire du Nostradamus avec la parole de Dieu, où ils consultent la parole de Dieu un peu comme autrefois ils pouvaient consulter un truc d'astrologie ou autre. Soyons plus matures que cela. Soyons plus sages que cela. La révélation que Dieu nous donne par rapport à notre avenir, c'est celle que lui veut bien vouloir nous révéler de façon ponctuelle, de façon concise. Mais il est important de savoir que Dieu parle aussi de notre présent. Et lorsqu'il parle de notre présent, il nous dit « Voici comment je veux que tu te comportes aujourd'hui. » Voici quelle est l'attitude que je veux que tu aies. Je voici je, quel comportement je veux que tu aies. À chaque fois que le Seigneur nous dit ceci, je l'aime de toi, et ceci, je ne l'aime pas, ceci, je l'approuve, et ceci, je le désapprouve, Dieu est en train de parler de notre présent. À chaque fois qu'il nous fait des remontrances, ou qu'il nous apporte des conseils, ou à chaque fois qu'il encourage notre façon de faire, il est en train de dire, voici ce que j'ai approuvé, voici ce que j'ai désapprouvé, voici ce que je t'encourage à poursuivre, ou voici ce que je t'encourage à laisser tomber. Donc oui, il est important de confronter notre état actuel avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu apporte la clarté à l'endroit où je me tiens. Lorsque David va parler qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce qui est important de savoir, c'est que puisque le Seigneur est présent à ses côtés, le Seigneur est capable de transformer cette vallée sombre en vallée lumineuse parce qu'il est avec nous. Comment il va l'éclairer, dans quelle force il va l'éclairer, jusqu'à quel point il va l'éclairer, ça c'est à Dieu de décider. À l'occasion, il va amener un peu de clarté pour qu'on puisse tout simplement dépendre de lui et y aller un pas à la fois. À l'occasion, il va faire jaillir une lumière somptueuse qui fait en sorte que toute la confusion, que toute l'ombre se dissipe pour qu'on voit pleinement les choses. Donc, à l'occasion, le Seigneur nous révèle les choses de façon majeure, et à l'occasion, il nous révèle les choses avec juste un peu de clarté, mais dans les deux cas, nous devons apprendre à marcher avec lui par la foi. Et il n'y a pas de meilleure façon de marcher ou d'apprendre à marcher par la foi que lorsque il y a peu de lumière ou qu'il y a peu de clarté autour de nous. Mais lorsqu'il y a peu de clarté, quel est le réflexe que je dois avoir de me réfugier dans la parole de Dieu? Lorsque les choses sont sombres autour de moi, quel devrait être mon réflexe? D'aller vers la parole qui sert de lampe à mes pieds. Un peu dans la même pensée ou dans la même lignée, Pierre va s'adresser à l'Église dans une des lettres qu'il va faire, dans la deuxième lettre de Pierre à l'Église. Donc dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19, et on va même lire du verset 19 au verset 21, voici ce que Pierre nous dit. Verset 19, donc 2 Pierre 1, verset 19. « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Je répète le verset 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter l'attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » J'enlève juste une petite chose. Oui, effectivement, tout à l'heure, on a dit que la parole de Dieu parlait de notre présent. Là, on parle effectivement d'une parole qui, aux yeux de Pierre et aux yeux de l'Église, s'avère prophétique, mais on parle quand même du Logos. On parle de cette prophétie qui amenait le Christ ou qui annonçait le Christ, et on parlait de cette prophétie aussi qui annonçait le retour de Christ éventuel, le retour certain de Christ qui doit encore venir aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, oui, c'était une prophétie, mais une prophétie qu'on associe effectivement au Logos, à la parole de Dieu. Voici ce que Paul nous dit. On a décortiqué ce verset en quatre sections importantes. Une lampe qui brille. Prêtez attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Une lampe qui brille. Le terme lampe qu'on a étudié tout à l'heure ou qu'on a mentionné tout à l'heure, le terme lichnos ou lichnos, qui parle donc de la lampe, du chandelier, de la chandelle, briller, phaino, P-H-A-I-N-O, P-H-A-I-N-O. Et le terme phaino veut dire qui amène de la clarté, qui amène de la clarté. Ça veut dire qu'il fait sombre et que dans cet endroit obscur, on amène de la clarté. Et amener de la clarté a aussi cette idée, lorsqu'on va parler de phaino, on a aussi cette idée d'amener de la compréhension. Donc la parole de Dieu nous permet de mieux comprendre notre présent. Régulièrement, le Seigneur va nous parler à travers sa parole pour que nous comprenions par où nous passons, pourquoi nous passons par un tel moment et ce que Dieu veut faire avec nous dans le moment présent que nous vivons. Hier, je rappelais ce verset qu'on trouve dans la parole qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que toutes les situations que nous traversons, contrairement à l'idée qu'on peut avoir à l'occasion lorsqu'on passe par un moment difficile, oui, d'autres personnes sont passées par là. Oui, d'autres situations similaires sont passées par là. Ça se pourrait effectivement que dans le précis du précis du précis du précis du précis du détail qui s'applique à toi, ce soit la première fois que toi tu vives par cela. Mais ce n'est pas parce que c'est la première fois que toi tu vis une telle situation que ça veut nécessairement dire que de toute l'histoire de l'humanité, tu es le premier à vivre une telle chose. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut donc dire que toutes les situations que nous pouvons traverser, toutes les situations que l'on peut rencontrer dans notre vie, ces situations-là ont déjà été abordées, mentionnées, éclairées par la parole de Dieu. Faute de me réfugier dans la parole de Dieu, très souvent ce qui se passe, c'est que je passe outre de ce que Dieu voulait me révéler, m'enseigner ou voulait m'avertir. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas réfugié dans la parole. Donc, cette parole qui est claire, la parole de Dieu apporte une compréhension et chasse l'obscurité et la confusion. Lorsque moi, personnellement, c'est redondant, mais lorsque personnellement, je passe par une situation qui est plus difficile, lorsque je passe par une situation où je comprends moins, je saisis moins ce qui se passe, j'essaie d'avoir ce réflexe de me réfugier dans la parole de Dieu. J'essaie d'avoir ce réflexe de me trouver davantage, de me nourrir davantage de la parole de Dieu. Et ça devrait effectivement être une habitude. Avec le temps, aujourd'hui, ça devient plus fréquent, mais il arrive encore des occasions où je me réveille 2-3 jours après une situation. Et je me rends compte, mais Florent, pourquoi tu as perdu 48 heures, 72 heures précieuses de ton temps, alors que tu aurais pu, il y a déjà 2 jours, 3 jours, voire une journée après que la situation s'est présentée, tu aurais pu déjà être dans la parole de Dieu, chercher le réconfort et chercher ce que Dieu peut dire par rapport à cette situation dans ta parole. Et assurément, le Seigneur m'aurait parlé. Donc, la parole est une lampe qui éclaire, oui, mon présent, donc qui chasse l'incompréhension, qui chasse l'obscurité, qui chasse la confusion de mon vécu quotidien. Il rajoute une lampe qui brille dans un lieu obscur. Non seulement cette lampe brille, mais elle brille dans un lieu obscur. Vous en conviendrez avec moi, l'utilité particulière d'une lampe, c'est de briller lorsqu'il y a obscurité. Si vous allumez une lampe à l'extérieur, en plein midi, lorsqu'il fait grand soleil, cette lampe-là, vous l'allumez pour rien. Et comme à l'époque, on parlait donc d'une lampe qui fonctionnait avec un combustible, et ces combustibles-là, fallait les acheter. ces combustibles-là coûtaient de l'argent. Sur un budget restreint, on faisait attention d'économiser ce combustible. Donc, en plein jour, on n'allumait pas une lampe. Mais lorsqu'on rentrait dans une pièce qui était obscure et qu'on voulait voir ce qui s'y trouvait, on allumait bien entendu une lampe. Et je rappellerai simplement qu'à l'époque, ce n'était pas garanti que toutes les maisons avaient des fenêtres. Il est arrivé une époque, particulièrement en Europe et plus précisément en France, où il y avait une taxe qui était imposée par rapport aux maisons, une taxe foncière, qui était plus grande dépendamment le nombre de fenêtres qu'il y avait dans une maison. Alors, à un moment donné, on s'est mis à construire des maisons sans fenêtres, sachant que si on faisait des fenêtres, les taxes qu'on allait payer seraient plus élevées. En contrepartie, oui, on payait une taxe qui était moins élevée parce qu'on n'avait pas de lampe, on n'avait pas de fenêtre plutôt, mais on avait aussi besoin d'acheter davantage de carburant, davantage de combustible pour éclairer la maison. Donc, on rentrait dans une pièce et on éclairait ce lieu qui était obscur. Lieu, topos en grec, T-O-P-O-S, qui va nous parler, donc, topos, qui va nous parler d'une place, d'une pièce, d'un quartier. Mais quand on parle de quartier, c'est comme les quartiers lorsqu'on parle avec une terminologie militaire. Donc, on parle des lieux d'habitation, des lieux de résidence, on parle d'un milieu de vie et on parle aussi, lorsqu'on parle de topos, on parle aussi des conditions de vie. Donc, c'est l'ensemble du milieu où on vit et les conditions dans lesquelles on vit. Et bien entendu, obscur, le terme okmeros, A-U-C-H-M-E-R-O-S, je répète pour ceux qui prennent des notes, okmeros, obscur, A-U-C-H-M-E-R-O-S, qui va nous parler, oui, d'une place qui est dépourvue de lumière, mais plus précisément, et c'est là où le grec devient intéressant, va nous parler d'un endroit qui est sale, d'un endroit qui est sombre, d'un endroit qui est dépourvu d'éclat, voire même d'un endroit qui est sordide. Donc, de cet endroit qui est peu reluisant, mais pas nécessairement parce que il y a pas de fenêtre et que la lumière ne rentre pas, mais parce que cet emplacement de notre condition présente, cet emplacement de notre milieu de vie est sale ou est dépourvu d'éclat. Donc la parole de Dieu, une des facettes importantes et que je trouve intéressante lorsqu'on étudie le terme grec obscur okmeros, la parole de Dieu vient éclairer ces endroits de notre vie qui ne reluisent pas beaucoup. Ces endroits de notre vie qui ne sont pas agréables au regard. Ces endroits de notre vie qui ne sont pas aussi propres, aussi nets, aussi purs qu'ils devraient être. Voyez, un des points importants de la parole de Dieu, c'est de nous révéler notre état réel. Et on va revenir là-dessus cette semaine avec une autre image. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va parler donc de Okmeros, lorsqu'on va parler de ce lieu obscur que la lampe vient à éclairer, c'est donc cet endroit où cette lampe qui met en lumière les secteurs sombres ou les secteurs sales de mon existence. Et assurément, on en a tous. Assurément, il y a des facettes de notre vie que Dieu doit purifier, que Dieu doit sanctifier, voire même des facettes de notre vie que Dieu veut nous voir abandonner. Et ces choses-là, nous ne les comprendrons pas, à moins que la parole de Dieu vienne éclairer ces endroits. Vous voyez, ce qu'on ne veut pas voir, on ferme les yeux par rapport à cela. On pense qu'on peut jouer l'autruche. Et encore là, pour ceux qui s'interrogent, l'autruche, ce n'est pas vrai qu'elle se rentre la tête dans le sable. C'est un mythe urbain, c'est un mythe qu'on a. Mais on a quand même cette expression, cette image que les autruches rentreraient la tête dans le sol pour ne pas voir la réalité à l'extérieur. Ça ne se passe pas comme ça, mais nous, oui,
à l'occasion, on peut se fermer les yeux, on peut même se couvrir les yeux en disant « Ah, parce que je ne le vois pas, à ce moment-là, tout est propre. » C'est se bercer d'illusions. C'est illusoire comme pensée. C'est même très infantile comme ou puéril comme attitude. Aussi bien être confronté avec la parole de Dieu à la réalité de notre état afin de faire le ménage. Lorsqu'on rentre dans une pièce sombre, si on ne veut pas trébucher sur un objet, si on veut faire un ménage adéquat, on allume la lumière, on allume la lampe pour être capable de voir ce qu'il y a à ranger et ce qu'il y a à nettoyer. Et la lampe que représente la parole de Dieu est donc, je vais prendre une gorgée, et donc, cet outil que Dieu nous donne pour regarder dans nos vies les secteurs obscurs, les secteurs sales, les secteurs qui sont à nettoyer. Pierre va continuer, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est une lampe qui brille jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Jusqu'à, c'est le terme « eos », H-E-O-S, et os, H-E-O-S, qui veut dire en attendant ou en contrepartie à une chose, jusqu'à ce que le jour vienne. Donc, c'est en attendant que le jour vienne ou parce que le jour n'est pas encore venu. Donc, parce que je suis dans la pénombre, parce que je suis dans l'obscurité, j'ai donc besoin de la parole de Dieu. On continue. Le jour, c'est le terme Hemera, Hemera, H-E-M-E-R-A, qui nous parle de la lumière du jour ou qui nous parle d'une date précise. C'est ces deux aspects-là. Soit on est dans la nuit et le jour vient à poindre, le jour vient à se lever, le soleil vient à se lever, ou sinon nous sommes dans l'attente d'une date spécifique dans un calendrier. Paraître, Diogazo, D-I-A-U-G-A-Z-O, qui nous parle de l'aube, donc le lever du soleil, qui nous parle de la lumière du jour qui vient percer l'obscurité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Deux choses importantes. La parole de Dieu nous sert comme contrebalan aux ténèbres, ou la parole de Dieu devrait nous servir comme contrebalan aux ténèbres. Tant que je suis dans l'obscurité, la seule chose qui devrait nous servir de refuge et qui devrait nous servir pour contrecarrer les ténèbres, c'est la parole de Dieu. Dans un moment de tentation, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque le diable venait l'oppresser, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a utilisé la parole de Dieu. Donc, les réponses que Jésus donnait au diable par rapport aux tentations qu'il lui offrait, par rapport aux offres qu'il lui faisait, Jésus nous a donné l'exemple à venir se réfugier dans la parole, donc à venir contrecarrer les ténèbres, contrecarrer les œuvres du diable avec la parole. Dans un même sens, lorsque nous nous retrouvons dans une situation obscure pour nous, une situation qui manque de clarté, une situation remplie de confusion pour nous, une situation où on ne sait pas aller à droite, à gauche, on avance, on reste sur place, on fait où? La chose qu'on doit faire, se réfugier dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on parle d'une lampe qui brille jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, donc savoir se réfugier dans la parole de Dieu, cette parole qui est un contrebalan, qui est notre outil pour contrebalancer les ténèbres. De surcroît à ça, la parole de Dieu devrait être notre premier refuge dans des périodes sombres de notre vie, dans les moments difficiles. Dans les moments, oui, de tentation, mais dans les moments aussi de douleur, dans les moments de deuil, dans les moments de tristesse, dans les moments d'affliction. Au lieu de rester seul à ruminer, à ressasser toute l'aridité, toute la dureté, toute la difficulté par laquelle je passe, au lieu de garder mes pensées là-dedans, qu'est-ce que je dois faire? Retourner à la parole de Dieu. Voici ce que le prophète va dire à un moment donné dans les Écritures. Dans ces moments difficiles, dans ces moments où il croit la mort l'environner, il va dire, voici ce que je veux ramener à mon esprit et qui me fera du bien. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Voici ce que je veux ramener à ma pensée. Et ça devrait être la même chose pour nous. Voici ce que je veux ramener à ma pensée. À mes pensées ou à ma pensée, je veux lui rappeler ce que la parole de Dieu nous dit, que les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent à chaque matin. Donc, contrebalancer l'ardeur du moment, contrebalancer la noirceur du moment par la parole de Dieu. Donc, une lampe qui brille jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, tant que ça ne brille pas, tant que ça ne va pas bien, cette parole reste un refuge ou devrait être un refuge pour moi. Dernier point pour ce matin, une lampe qui brille jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est une expression qui était bien connue au Proche-Orient à l'époque. Le terme grec pour étoile du matin, c'est phosphoros. Phosphoros, P-H-O-S-P-H-O-R-O-S, phosphoros, comme phosphore, phosphore plutôt. Pourquoi? Parce que au départ, le phosphore était une pierre incandescente, était une pierre qu'on pouvait allumer et qui servait, de par le fait qu'elle brûlait un matériau qui était un combustible, qui faisait en sorte qu'il y avait de l'étincelle et qu'il y avait donc une lumière qui jaillissait. Donc, jusqu'à ce que l'étoile du matin, c'était un astre dans le ciel qui brillait, même lorsque le soleil se mettait à se lever, on continuait à voir ce point lumineux qui était plus lumineux que les autres points. En fait, c'était pas une étoile, c'était une planète, et c'était la planète Vénus qui réfléchissait les rayons du soleil et qui, dans le ciel, tôt le matin, brille davantage que les autres astres qui sont dans le ciel, mais ce n'est pas une étoile. On l'appelait l'étoile du matin, mais les astronomes vous l'expliqueront mieux que moi. C'est en fait la planète Vénus qui réfléchissait plus solidement, on va dire, les rayons du soleil. Mais bibliquement parlant, cette étoile brillante du soleil est associée à plusieurs endroits dans la parole de Dieu à Christ. Donc, jusqu'à ce que Christ se lève dans vos cœurs, jusqu'à ce que cette étoile vienne briller dans vos cœurs, jusqu'à ce que, et vos cœurs, c'est le terme cardia, K-A-R-D-I-A, qui est le centre des émotions, le centre non seulement de notre vie physique, mais de notre vie émotionnelle et aussi de notre vie spirituelle. Le centre de notre existence. Donc, la parole nous disait plus ou moins que jusqu'à ce que Christ, jusqu'à ce que Dieu se lève dans ma situation, j'aurais dû ou je devrais me réfugier dans la parole de Dieu. Parfois, on est dans une situation qu'on pense sans issue, une situation qu'on pense sans voie alternative, une voie, on va dire, en impasse, en cul-de-sac. Dans ces situations, nous devons aller dans la parole de Dieu, nous réfugier dans la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ se lève et dise, moi je fais une ouverture dans cette impasse et moi je fais une porte là où il n'y en avait pas et je permets à mon fils de sortir de cette situation. Donc, pour toi et pour moi, la parole de Dieu devrait être notre ancre solide en attendant la manifestation claire de la volonté de Dieu. Parfois, je suis dans une situation et je ne sais pas, est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller à gauche? D'ici que Dieu ne se manifeste clairement pour ouvrir la voie, je devrais m'ancrer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit que je dois faire quand je suis dans l'attente? Comment je dois attendre? Quelle est l'attitude de cœur que je dois avoir? Quel est le calme que je dois ordonner à ma pensée, à mon cœur, à mes émotions? Tout ça, je le trouve dans la parole de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas ce temps d'attente. Ils ne veulent pas attendre. Ils veulent plutôt transformer leurs décisions ou transformer les situations dans lesquelles ils s'engouffrent par leur propre chef en essayant de les spiritualiser avec des versets après coup. Lorsque tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, fais une pause. Attends et réfugie-toi dans la parole de Dieu. Et attends que Dieu te parle. Attends que Dieu te dise clairement, voici ce que je veux de toi. À l'occasion, le Seigneur va te dire effectivement, commence à avancer. Tu ne sais pas où tu t'en vas, mais commence à avancer. Et à l'occasion, il va te dire, non, arrête. Attends. Et pendant ce temps d'attente, Dieu va te dire, voici comment je veux que tu attendes, dans le calme. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis avec toi dans la vallée obscure. Je suis avec toi dans la vallée où tu ne vois pas les choses venir. Je suis avec toi. Il n'a pas dit de fuir la vallée. Il a dit de marcher avec lui. Mais marcher avec lui, c'est marcher au rythme où lui dit de marcher. Il nous faut donc apprendre. Tant que Dieu ne parle pas, je n'avance pas. Et j'attends. Et pendant mon temps d'attente, je me réfugie dans la parole de Dieu. N'est-ce pas une parole merveilleuse que nous avions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, un, que la parole de Dieu apporte la clarté à l'endroit présent où je me tiens. Deuxièmement, on a vu que la parole de Dieu apporte une compréhension et chasse l'obscurité ou la confusion. On a vu que la parole de Dieu met en lumière les secteurs sombres, les secteurs moins reluisants de notre vie. Ces secteurs qui ne glorifient pas Dieu, la parole de Dieu les met en lumière pour nous permettre de nettoyer ce qui est à nettoyer. Par la suite, la parole de Dieu aussi nous sert de contrebalan aux ténèbres. Si les lieux où je me tiens ne sont pas éclairés, je l'éclaire à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait être notre premier refuge dans les périodes sombres, les périodes difficiles, les périodes ardues de notre vie. Enfin, la parole de Dieu devrait être notre ancre. Pendant toute cette période où je suis dans l'attente d'une réponse de la parole de Dieu ou d'une réponse du Seigneur par rapport à nos situations ou à notre situation. Alors que Dieu bénisse ta journée aujourd'hui. Je ne sais pas, es-tu dans une période reluisante? Es-tu dans une période difficile? Es-tu dans une période demandante? Es-tu dans une période où les choses sont claires? Ou peut-être es-tu dans une période où les choses, tu as des décisions à prendre et les choses sont moins faciles à déchiffrer? Réfugie-toi dans la parole de Dieu et que le Seigneur puisse t'éclairer aujourd'hui. Prions. Seigneur, tu es une lampe à mes pieds, une lampe à nos pieds. Donc, une lampe pour éclairer la situation présente dans laquelle je me tiens, dans laquelle ma sœur se tient, dans laquelle mon frère se tient. Et à l'instar, Seigneur, de Moïse, nous voulons te dire, ne nous laisse pas aller si tu ne viens pas avec nous. Nous voulons apprendre, Seigneur, à garder notre place, à garder l'endroit où nous sommes jusqu'à ce que toi, tu nous éclaires pour faire le prochain pas. Dans les situations, Seigneur, remplies de confusion, nous voulons attendre avant de prendre une décision, attendre que toi, tu nous parles. Et au lieu, Seigneur, de nous tourner les pouces, au lieu de nous lamenter, au lieu de trembler face à la situation, nous voulons apprendre à nous réfugier dans ta parole. Cette parole qui chasse l'obscurité, cette parole qui chasse la confusion, cette parole qui fait contrebalan aussi, Seigneur, à l'obscurité. Et de surcroît à cela, Seigneur, nous comprenons que si ta parole éclaire la situation présente dans laquelle nous nous tenons, ça veut donc dire que ta parole éclaire aussi les secteurs dans notre vie qui sont peu reluisants. Assurément, j'ai encore des endroits dans ma vie que tu veux sanctifier, que tu veux purifier. Il y a encore des endroits de ma vie qui ont besoin d'être nettoyés, d'être sanctifiés. Je prie effectivement, Seigneur, que ta parole éclaire, afin que je puisse mettre à l'extérieur de ma vie ce qui ne te glorifie pas, afin que je puisse balayer hors de la pièce ce qui ne te glorifie pas, afin que je puisse faire le nettoyage que tu demandes de moi. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, éclaire-les par rapport à la confusion que le diable veut lancer contre eux, éclaire-les par rapport au nettoyage qu'ils doivent faire dans l'endroit où ils sont aujourd'hui. Éclaire-les, Seigneur, par rapport à leur état réel d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de leur parler à travers ta parole. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Voilà, c'était la parole qu'on avait aujourd'hui. C'est vrai, je vois un commentaire de la sœur Nancy. C'est vrai, le bout d'une allumette, il y a effectivement du phosphore dedans. Et en espagnol, phosphoros pour les allumettes. Mais c'est tout simplement parce que dans le bout de l'allumette, effectivement, quand on la gratte, ce qui se met à brûler, c'est effectivement, il y a effectivement du phosphore là-dedans. Merci du rappel, ma sœur. Soyez bénis. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle, les inscriptions ont déjà cours pour l'Assemblée de dimanche. Ce dimanche dernier, on était presque à capacité maximale. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. On veut bien planifier les choses et on veut bien vous accommoder. Donc, inscrivez-vous pour l'Assemblée de dimanche. Ne tardez pas. Appelez ou écrivez par courriel. C'est pas Messenger et ce n'est pas Facebook. Donc, par courriel ou sinon, laissez un message sur la boîte vocale de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. À demain, tout le monde.